Le temps d'un été, Florence Grivel.
Bonjour à vous tous qui nous accueillez chez vous, dans une voiture, sous un pin parasol ou sous un parapluie tout simplement. Soyez les bienvenus dans le temps d'un été. Pendant une heure, une rencontre avec une personnalité dont le parcours, les intérêts, le regard sur la vie, eh bien nous avons envie de partager tout cela avec vous. Aujourd'hui, place à Axel Snackers. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez fait bon voyage de Genève jusqu'à la lointaine Lausanne ?
Alors écoutez, jusqu'à la fin, j'ai cru que j'arrivais, mais juste avant d'arriver chez vous, j'ai été complètement coupée sur ma route. J'ai pas du tout pu trouver mon chemin. J'ai beaucoup balisé, paniqué. Je me suis dit, ben voilà, je vais pas la faire, cette émission, je vais pas y arriver.
Et puis vous finalement,
vous êtes là.
Je suis. Le petit ange de la radio est venu
vous
chercher. Voici quelques mots qui brossent un bref portrait de vous, Axel Snackers. La première fois qu'on la rencontre, il y a de la chaleur et du rire immédiat, peut-être ses racines belges. Le cerveau et ses innombrables possibles lui font opter pour un métier thérapeutique, ce qui ne l'empêche pas de se ressourcer dans son atelier et de déposer ses visions végétales sur d'immenses ce cercle de métal. Eh bien, ces lignes, Axel Snackers, je les ai soumises à notre invité d'hier, Nicolas Libert, qui a du coup une question pour vous.
Axel Snackers, j'adore ce nom. Est-ce votre nom de scène ou alors tout simplement celui que vous
Absolument.
Avez pris quand vous guerroyez dans la clandestinité, dans le triangle d'or ?
Vous avez entendu toute la question ?
Non, juste le début.
Juste le début. Eh bien voilà, on la referait peut-être ? Max Bott, allez.
Axel Snackers, j'adore ce nom. Est-ce votre nom de scène ou alors tout simplement celui que vous avez pris quand vous guerroyez dans la clandestinité, dans le triangle d'or ?
Alors, triangle d'or.
Génial. Déjà, la manière dont il prononce le Snackers, c'est fabuleux. C'est mon nom de scène, c'est-à-dire que c'est celui que j'ai reçu quand je suis arrivée dans ce jeu.
Dans ce grand théâtre qu'est la vie.
Dans ce grand théâtre qu'est la vie. Et voilà, donc de scène et de lutte.
Vous qui avez justement beaucoup voyagé, le triangle d'or, là où l'opium pousse comme de la mauvaise herbe, c'est-à-dire qu'on est en Birmanie, Thaïlande, le Laos, est-ce que vous êtes déjà allé dans ces régions ?
Alors, je ne sais pas à quelle distance se trouve la Thaïlande par rapport au triangle d'or, mais oui, j'ai fait un séjour en face du pont de la rivière Kwai, à Kanchanapuri, il y a une vingtaine d'années, c'est pas plus, où effectivement, je me suis reposée d'un long voyage en Inde, et où je me suis arrêtée sur ce pont de la rivière Kwai. Et justement, mon triangle d'or à moi, dans cet endroit, c'était cette rivière noire face au pont dans laquelle je me baignais, dans laquelle je m'engouffrais, dans laquelle je me perdais.
De l'eau, des voyages, tout est pratiquement déjà dit, Axel Snackers. Ce nom absolument formidable, donc Snackers, un patronyme aux origines belges. Forcément, Jean-Baptiste Roumains, notre programmateur musical, eh bien, il nous emmène à Bruxelles.
Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris, et puis elle me soupçonne d'être avec toi. Le soir, je reconnais, c'est vrai, tous les soirs, dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie? Ne t'avais même pas reconnu. Les néons, les léons, les noms de Dieu, sublime décadence, la danse dépense, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles aboutit, qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui, tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, combattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends. Paris, je te laisse mon lit.
Alain Bachung donne sa voix à cette Bruxelles ciselée à l'origine par Dick Annegarn. Vous connaissiez ça, Axel Snacker, cette chanson?
Non, c'est la première fois que je l'entends. J'aime beaucoup Bachung et j'adore Bruxelles, donc c'était merveilleux de découvrir ça.
Vous êtes née à Bruxelles?
J'y suis née, absolument.
Mais pas restée longtemps?
Non, 2 ans. À peine.
Et pourtant, vous continuez à adorer cette ville, je crois.
Oui, c'est une ville, c'est la Marseille du Nord, c'est l'Italie du Nord, la Belgique. Donc, c'est une ville plein de reliefs, plein d'étrangers, sale.
En même temps, flamboyante
voilà,
aussi.
Voilà, flamboyante. On y mange bien, on y boit bien. Il y a beaucoup de mode, beaucoup d'habits, beaucoup. C'était très théâtral. Il y a ce fameux quartier des Marolles avec des puces, des vraies puces.
À perte de vue,
à l'ancienne.
Ouais. L'objet que vous m'avez apporté aujourd'hui dans Le Temps d'un été n'a pas grand-chose à voir avec Bruxelles, ce me semble. A priori, en tout cas, je vous laisse peut-être nous le présenter, parce que c'est vraiment un drôle de machin.
Ah oui, vous m'avez demandé un objet. Alors, je vous ai amené un monopalme. Un monopalme, en fait, c'est une queue de sirène avec laquelle on peut nager dans les profondeurs, en surface et dans les profondeurs. On est en apnée ou pas, avec un tuba qu'on met de manière frontale. Et surtout, oui, c'est une manière de parcourir l'eau qui est particulière.
Différence entre monopalme et puis peut-être des palmes, tout simplement. Il y a une sensation différente.
Voilà, la monopalme, en fait, on est obligé d'être très fondu dans l'eau et de trouver un mouvement qui part depuis le centre du corps pour avancer. En fait, si on essaye d'avancer en tant que tel, on n'avance pas. Mais si on arrive à ressentir le mouvement,
le courant,
à l'intérieur de soi, une sorte de flux qui nous propulse, à ce moment-là, on commence à voler dans l'eau.
Axel Snacker, pendant, on va peut-être profiter de cet été pluvieux ou aquatique, ça dépend d'où on se trouve, pour connaître peut-être vos souvenirs d'eau les plus intenses. L'eau est extrêmement importante.
Souvenirs d'eau intense. Ah ben effectivement, c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure à Kanchanapuri, dans cette eau noire, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé, je déteste les films qui font peur, par contre j'aime me faire peur dans la vraie vie, et une chose que j'aime particulièrement, ou que j'aimais, parce que là ça fait très longtemps que j'ai plus fait, c'est me baigner la nuit, sans lumière, voire sans lune.
Et on s'invente des monstres comme ça qui sortiraient peut-être de l'eau?
Non, je n'ai pas cet imaginaire de monstre, mais j'aime la sensation du rien, la sensation
de l'abîme,
du vide. Et de se laisser justement d'avoir peur, mais pas dans un film, dans la vraie vie. Je ne sais pas comment vous expliquer.
Mais en même temps, l'eau, m'avez-vous dit aussi, c'est un endroit extraordinairement accueillant, par exemple pour la naissance de votre fille?
Oui, c'est vrai. Un des plus beaux jours de ma vie, c'est effectivement de pouvoir accoucher dans l'eau et d'avoir cette sensation. Je me rappellerai toujours, c'était pas très loin d'ici, c'était à Grand, chez Evelyne Morayon, qui faisait les accouchements naturels dans l'eau, sans aucun. Quand on est en sécurité pour le faire, bien sûr, il faut être en bonne santé. Et donc, il y a la possibilité de se détendre et de laisser accueillir l'enfant dans l'eau et puis d'être détendu soi-même pour l'accueillir. Non, c'est magnifique.
Et puis je crois que l'eau aussi est cruciale dans l'art. C'est-à-dire que j'ai le souvenir que une pièce vidéo très très assez connue pour ceux qui connaissent l'art contemporain et l'art de Bill Viola vous a aussi complètement renversé, bouleversé.
Oui, exactement. C'était il y a une vingtaine d'années, je pense, plus ou moins, à la Documenta de Cassel. Je suis arrivée dans une pièce et j'ai découvert pour la première fois une installation de Bill Viola où il avait installé une succession de voiles et sur ces voiles était filmée la chute d'un corps, d'un homme, mais filmé à l'envers. C'est-à-dire que la sensation était très perturbante pour nos yeux, pour notre perception, parce que cette chute était inversée. Et surtout, il y avait une manière de filmer, une lumière, une manière d'entourer le spectateur dans cette pièce noire. Justement, je vous parlais d'eau noire et d'abandon, en fait, dans du rien. Et là, c'était une révélation pour moi, parce que c'était un vidéaste, et puis qu'à l'époque, j'étais très revendicative de l'art, de la peinture.
De la gravure, oui.
Peinture, gravure, et au-delà de ça, même s'il y avait plein de personnes qui travaillaient à la vidéo, j'étais très réfractaire. Mais là, c'était un vidéaste qui peignait.
Et puis aussi avancer malgré les courants contraires, et aussi suivre le courant, c'est un petit peu la métaphore que nous offre votre monopalme. Traverser de toute manière.
C'est-à-dire que voilà, ce qui m'intéresse en fait dans la vie, c'est d'observer les obstacles, quels qu'ils soient, psychiques, physiques, événementiels, et puis d'avoir toujours une manière de surfer sur les choses, une manière de ne pas se laisser
engloutir,
blesser. En fait, j'ai toujours refusé, depuis toute petite, de me laisser entamer, de me laisser blesser par tous les contraires, par toutes les oppositions, par tous les empêchements, par toutes les carences. Ouais, ça c'était, voilà, c'est vraiment au quotidien
votre credo.
Absolument.
Credo avec des apostrophes à U, évidemment, Axel Snackers. Je profite de ce grand moment de philosophie pour vous donner quelques nouvelles de la route.
Infotrafic RTS.
Soyez très prudents si vous circulez sur l'axe Lausanne-Pontarlier. On signale des piétons sur la chaussée entre l'échangeur des Serpitais et Orbe en direction de Pontarlier. Axel Snackers, on est là dans le temps d'un été, on parle de vous, on parle de l'eau, on parle des mouvements contraires, on parle de surfer, on parle d'art, on parle de naissance. Et puis si on parle de l'eau aussi dans l'art, on peut imaginer que la nature est essentielle, hein, dans votre art, en tout cas c'est le cas, puisque sur de grands cercles d'aluminium, vous semblez déposer un baiser de nature. Alors avant de creuser le sujet, je vous propose un paysage musical dans le temps d'un été.
Dernier nuage aperçu sur l'aiguillé
dernier feu, dernière étoile s'enfuyant vers le forêt, dernier vœu, dernier soupir à la fuite du bonheur, dernier enfant taquiné de tout son cœur. Oh, accueille-moi, paysage. Ça rigole en sapin, dernier son. Dessus la mer, un dernier signe au matou qui attend. Dernière plainte, dernière grève sur les blés. Dernier frisson.
Accueille-moi paysage, la voix de Jean-Louis Murat. Il sera le 22 août au Puy-For-Noise Festival. Axel Snacker, c'est notre invité dans Le Temps d'un été. Vous avez aimé ce titre, Accueille-moi un paysage, Accueille-moi paysage tout court.
Ah, Accueille-moi paysage, oui, pour devenir un nuage.
Avec des frissons.
Ça, ouais, je trouve ça magnifique.
C'était une manière aussi de nous embarquer, Axel Snackers, dans votre monde, votre univers pictural. Je vous le disais tout à l'heure, vous peignez en partie votre vision du monde sur de grands cercles d'aluminium. Peindre, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, il y a de la gravure un peu, il y a de la couleur. Mais j'aimerais que vous nous racontiez peut-être comment ce type de pourquoi un cercle d'aluminium sur lequel vous faites miroiter le monde, Axel Snackers.
Alors je pense que c'est tout à fait ça, c'est ce que vous dites, miroiter le monde, c'est en fait une poésie hein, qui se dépose par des couches successives, c'est ma fascination du paysage, c'est-à-dire que je suis toujours en train de regarder, même ici à la radio, en train de regarder à l'extérieur, en train de regarder les reliefs, les changements de couleurs, les disparitions, les contrastes. C'est une fascination de l'extérieur. Une fascination de l'extérieur en lien avec mon intérieur. C'est comme si j'avais toujours besoin d'être reliée avec la terre, avec les arbres, avec la lumière, pour un petit peu faire face à mes noirceurs intérieures, à mes profondeurs abyssales, personnelles. C'est un moyen de rester au contact avec une réalité, et c'est aussi un moyen de transcender en fait cette réalité qui est pas facile pour tout un chacun, pour moi en particulier. C'est un moyen d'être au monde que de pouvoir parler de la beauté du monde, en fait.
Mais ce cercle avec le miroitement du monde, apparaît comme ça, peut-être, je sais pas, dans un paysage ou non? Comment ça t'est arrivé?
Non. Alors l'histoire du cercle, elle est plus complexe. Ça fait plus de 25 ans que je peins. J'ai peint sur différents supports, des rectangles, des carrés. Je suis très longtemps restée sur des carrés. Et d'ailleurs, l'histoire des cercles, c'était avant les carrés. En fait, j'avais un sentiment intérieur de nouveau de me disperser, de pas vraiment savoir ce que j'avais à dire, de pas être très rigoureuse, pas assez pertinente par rapport à des idées, par rapport à des concepts, etc. Puis à un moment donné, j'ai vraiment voulu, je me suis un petit peu forcée, c'était pas forcément agréable, mais je me suis dit, tiens, prends un cercle, ça va peut-être t'unifier, te tranquilliser. Et c'était très très difficile de passer en fait d'une image carrée à un cercle.
Qu'est-ce qui se passe dans cette translation ?
C'est le cercle est proche de l'infini, alors que pas du tout structurant. Paradoxalement, ça unifie mais ça déstructure, alors que le carré cadre, structure, rassure. Tout ça est un peu, on va dire, contradictoire, ambivalent, mais c'est des mouvements. En fait, pour rester dans le flux, comme on parlait tout à l'heure du monopalme, c'est de s'imposer des formats, de s'imposer des directions pour être dans le flux, pour être toujours à l'affût de nouvelles choses et toujours créatif.
Est-ce que, lorsque je vous entends parler, j'ai l'impression que vous vivez la nature, vivez le paysage, et que c'est peut-être dans l'atelier que vous revisitez ce paysage. Est-ce que vous ne peignez pas sur le motif, ou ça vous est arrivé de croquer des choses, comme ça, dans un paysage particulier?
Alors, jeune enfant, j'ai toujours adoré dessiner et reproduire. J'ai adoré reproduire des paysages, reproduire des visages, reproduire de l'architecture. C'était toujours, en fait, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on voit. Et pendant des années, bien avant de commencer les Beaux-Arts, qui était très tard, j'ai commencé à 24 ans les Beaux-Arts, toutes les années, de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 24 ans, j'ai beaucoup, beaucoup dessiné. Particulièrement, croquer des petites choses, des petits détails, des animaux, des gestes. C'est vraiment une fascination. Donc finalement, après, je me suis focalisée sur les arbres, mais j'aurais pu me focaliser sur un visage, sur un œil, sur une bouche, sur un objet même. J'ai encore envie dans mes projets, dans ma tête. J'adorais les livres d'images petites, et je me dis, est-ce que je vais un jour m'autoriser à juste dessiner des objets.
Remettre de la figuration.
Oui, parce que pour moi, il n'y a pas de différence entre ce que je fais de manière abstraite et la figuration. Mais c'est vrai qu'une figuration plus concrète, plus évidente, permet aussi peut-être plus d'histoire. Le fait d'être abstrait dans la nature est plus silencieux, moins anecdotique. Donc.
Mais là, ce petit carnet là qui est à côté de moi, avec des portraits, du dessin, c'est de la mine de plomb, je crois.
Oui.
Des personnages, en tout cas, qui ont des visages d'ailleurs. Ce sont des paysages-visages que vous avez faits durant vos grands voyages, Axel Snackers.
Alors effectivement, j'ai toujours adoré voyager, adoré être dans ce sentiment de déplacement. Déplacement du corps, déplacement du décor, déplacement du paysage, toujours. C'est une façon de nouveau, c'est le train par exemple, c'est une sorte de monopalme sur lequel je n'ai pas d'impact, mais dans lequel je peux me laisser bercer. Non, tout ça pour dire qu'en fait, un des plus grands voyages et des plus beaux voyages que j'ai fait, dans une période de ma vie où j'étais pas très bien, assez dépressive, je dois dire. C'était un voyage que j'ai fait à 24 ans, avant d'aller aux Beaux-Arts, avant de rentrer aux Beaux-Arts, dans le but d'aller aux Beaux-Arts, justement, parce que j'osais pas. J'avais fait des études de physiothérapeute et je travaillais comme thérapeute, mais j'étais malheureuse comme la pierre, pas du tout dans mon élément. Enfin, si, mais pas complètement. Et donc, j'ai fait ce voyage, ce choix de voyage en Inde pendant une année, où je suis passée par le Sri Lanka, l'Inde, la Thaïlande, le Népal, dans le but, en fait, de voir qui j'étais, est-ce que j'avais vraiment quelque chose à dire, est-ce que c'était une idée, cette envie de peindre, cette envie de dessiner, ou est-ce que c'était vraiment une réalité? Et donc, j'ai dessiné tout le monde pendant une année, comme ça. Et voilà.
Et quand vous regardez aujourd'hui, je sais pas, 20, 30 ans plus tard, comment vous regardez cela?
Je suis vraiment très, très touchée, je dois dire, parce que les années passent, on a un petit peu moins d'énergie, on a un peu moins de fougue. Et là, je vois une volonté, une énergie, une radicalité.
Une ténacité.
Et en particulier, ce dessin-là que je vous ai apporté, qui est le dessin d'une mendiante, je sais plus où c'était, si c'est...
C'est daté 89,
je crois. Oui, c'est dans le sud de l'Inde, dans une petite ville, à Cochin, je crois. Il y avait donc un cordonnier à qui j'avais donné mes chaussures à réparer, qui s'affairait délicatement. Je l'ai dessiné dans une image précédente. Et soudain, la femme du cordonnier vient s'imposer devant son mari et dit « Ah, et moi j'aimerais bien mon dessin aussi ». Et je commence à la dessiner. Et là, je pense que c'est un des moments les plus forts de ma vie, je crois, parce que j'étais entourée d'une cinquantaine de paysans, enfin de gens de la rue, parce que alors en Inde, il n'y a pas d'espace privé, hein. Donc j'avais juste demandé à ce que je puisse voir cette femme. Donc j'avais 3 mètres devant moi qui étaient libérés, mais tout l'extérieur était rempli de monde. Donc il y avait énormément de monde, il y avait un immense silence, et je dessinais cette femme, et le regard de cette femme, elle est venue me pénétrer jusque dans le cœur de mon âme, pour me dire, alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas décider de ta vie? Tu vas continuer à ne pas oser faire ci, ne pas oser faire ça, vivoter en faisant de la physio,
flotter.
À flotter, tu dessines un peu, tu fais un peu de physio, mais bon, bref, tu t'engages dans rien du tout, ça va pas du tout. Bref, ce regard m'a décidé, c'est vraiment ce jour-là, je me suis dit, ok, au retour à Genève, je m'inscris aux Beaux-Arts et voilà.
Et ce dessin, vous ne l'avez pas donné à cette dame?
Mais je ne me souviens pas si les personnes que j'ai dessinées...
Les désiraient.
Non, ils me demandaient de l'argent. Et je leur donnais de l'argent.
Et vous repartiez avec ce dessin, avec cette vision.
Voilà.
Axel Snackers, vous êtes venu avec un film. Ça, c'est le moment où vous allez pleurer, je crois. Non pas à cause du film, mais à cause de la musique. Il s'agit de Skyfall, le James Bond de Sam Mendes, sorti l'année dernière. C'est un extrait particulier parce qu'il s'agit en fait de la chanson du film, interprétée par Adele. Et ça commence par un plongeon. On reste dans l'ambiance de Skyfall, ce James Bond de Sam Mendes que vous nous apportez aujourd'hui, Axel Snackers. Je vous laisse peut-être nous mettre quelques images sur cette bande originale.
Bon, avant tout, il faut que je vous explique que j'ai toujours détesté les James Bond.
Ben voilà qui dit.
Et que j'y allais un petit peu à reculons et que j'ai vraiment eu un choc. Vraiment un choc. Alors, effectivement, j'aime pas forcément les scènes où ils se courent après, ils se tirent dessus, etc. Puis on arrive sur la scène du train, où ils se battent sur le toit du train, le western, quoi. Et j'étais en train de me dire, voilà, là, là, là. Et tout d'un coup, donc il y a cette femme qui vise cette assistante, ou je sais pas comment on peut l'appeler, la femme avec qui il est.
La James Girl, voilà, la Bond Girl, oui.
Sublime Bond Girl, qui lui tire dessus, et donc il tombe. Il tombe, c'est un pont, le pont Adana, je crois, en Turquie. C'est un immense pont romain, comme ça, duquel l'homme tombe. Et on retrouve cette chute. Et donc déjà là, j'ai commencé à avoir Bill Viola, à ressentir des choses. Et alors, tout d'un coup, on voit le corps dans l'eau, complètement laissé aller, flottant, et qui chute, et qui chute. Dans cette chute, on voit la femme qui lui a tiré dessus, donc qui le prend par la main.
Qui le sauve.
Façon de parler. On ne sait pas trop, parce qu'on continue à descendre. L'eau est bleue, les peaux sont bleutées, et on arrive dans le sol, tout sableux, et dans ce sol, il y a encore un trou, et on descend dans le trou. Et quand on voit ça la première fois au cinéma, avec un immense écran, parce que là, je l'ai regardé à nouveau, puisque je savais que j'allais en parler, mais quand on le voit pour la première fois en vision géante et qu'on pénètre en fait dans ce trou, et qu'après il y a toutes des scènes où c'est comme si on arrive dans un flux sanguin, il y a des
souvenirs, des locomotives si je me souviens bien.
Oui, c'est un mix entre le côté, on va dire, anecdotique avec des armes, mm-hmm. avec du sang, avec James Bond et tout ça, des références à Hitchcock parce qu'il y a ces miroirs où il se voit dans plein d'endroits. C'est très labyrinthique et donc on est perdu et on chute comme ça, et avec cette musique
qui vous enveloppe en même temps
et qui parle de rédemption, qui parle d'amour et qui parle du fait que ce lien, en fait, cette main qu'on a vue au départ sauve cet homme. Dans un sens, Adèle, elle chante que voilà, le ciel va s'effriter, tout va se défaire, mais mon cœur va rester debout, va rester résilient, va rester fort.
Résilience, Axel Snackers. Ouais. Un mot qui a émergé grâce à Boris Cyrulnik il y a une vingtaine d'années, mais votre définition à vous de la résilience, parce que c'est important aussi pour votre travail.
La définition de la résilience, elle est mystérieuse, parce que justement Boris Cyrulnik écrivait à l'époque que n'est pas résilient qui veut. En fait, c'est dans la biologie aussi que s'inscrit la résilience, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont plus dotées que d'autres de la possibilité d'être résilient. C'est pour ça que ça nous permet aussi d'être très indulgents en tant que thérapeute dans mon quotidien par rapport aux personnes qui, même si je leur propose des visions ou des possibilités pour dépasser certaines choses, ne les prendront pas parce qu'ils ont tout simplement pas le moyen physique. Ce n'est pas que psychique, la résilience.
Et c'est génétique.
C'est en partie génétique.
Un
en
héritage.
Partie. Voilà.
Est-ce que c'est votre résilience à vous qui vous a amené à travailler là-dessus?
Vous dites comme thérapeute?
Mm-hmm, comme thérapeute. Hein.
Oui, alors comme thérapeute, c'est le fait effectivement que face à des difficultés, et dans mon histoire personnelle, des personnes avec des problèmes d'ordre psychique, d'ordre du mental, face à des personnes qui sont agressives,
déstabilisantes,
toxiques, etc. Mmh. Face aussi à des mentales très intellectualisées, très construit dans des explications, dans des références. Voilà, j'ai des parents...
Un peu minéral.
Ouais, j'ai des parents qui étaient dans le milieu psychiatrique et psychologique. Et je trouvais toujours qu'il leur manquait de la simplicité.
Un ancrage dans le corps, peut-être.
Ouais, presque une forme de paysannerie, une forme de réalité
de bon
terrestre
sens.
Et de bon sens. Mmh. Voilà, exactement. C'est l'histoire du bon sens. Je pense que pour moi, la résilience, elle est très en lien avec le bon sens.
Et vous, Axel Snackers, vous travaillez, puisque le mot est lâché, vous êtes également thérapeute en biogénéalogie. Alors moi, j'ai besoin que vous m'expliquiez ce mot biogénéalogie avec un exemple concret, justement, avec du bon sens, avec de l'expérience.
Alors écoutez, la biogénéalogie, en fait, c'est un terme qui a été créé par ma prof, qui s'appelle Marie-Françoise Noguès, qui habite à Aix-en-Provence. C'est un terme qu'elle est en train de modifier. Elle parle maintenant plus de thérapie épigénétique.
Laissons les mots de côté. Voilà. Racontez-moi une expérience de cabinet.
Alors, ce qui est intéressant dans le cabinet, c'est d'expliquer aux personnes qui viennent que, en fait, elles ont plusieurs cerveaux qui les habitent. Il y a un cerveau, on va dire, cortex, le cerveau le plus évolué, le cerveau que moi j'appelle le cerveau de l'adulte, le cerveau qui se sent en sécurité, qui n'est plus dans la peur, qui est intelligent, qui a les bonnes réactions, qui s'adapte
adapté,
à tout, adapté, voilà, le cerveau adapté. Je dessine beaucoup quand j'ai mes patients qui sont avec moi, et je dessine ce cerveau en vert, je leur fais un dessin comme ça. Et puis il y a un autre cerveau, celui-là qui est beaucoup plus embêtant, qui est ce qu'on appelle le cerveau limbique, qui est le cerveau de nos mémoires, de nos émotions. Et en fait, ce qui est fou, et c'est le cas de le dire, c'est qu'on est complètement téléguidé par ce cerveau.
Il a plus d'influence.
C'est pas qu'il a plus d'influence, c'est que chaque action, chaque pensée de notre cerveau, cortex, va demander
au limbique,
s'il peut ou non faire telle ou telle chose.
Donc par exemple, un cas que vous nous sortez comme ça de votre chapeau, qui grâce à la biogénéalogie, vous avez réussi à le faire basculer dans quelque chose du limbique au cortex.
Alors écoutez, je vais parler de moi, parce que ça va être plus simple. Je vais parler de moi du simple fait que j'arrive à vous parler aujourd'hui. Parce que pour moi, jusqu'à maintenant, c'était beaucoup plus facile de ne parler à personne, d'être dans mon atelier ou dans mon cabinet, et surtout de rien avoir à expliquer à personne, de n'enseigner à personne, d'être voilà toujours assez protégée, comme si finalement c'était un vrai danger pour moi qu'on me voit telle que je suis, que je puisse affirmer voilà je suis en même temps artiste, je suis en même temps thérapeute, que je puisse affirmer mon originalité. Ça, pendant des années, je crois que ça fait en tout cas une quinzaine d'années
maintenant.
C'était
une guerre entre vous.
Mais c'était pas une guerre. Je n'aurais simplement pas pu vous parler aujourd'hui. J'aurais pas pu dire un mot tellement j'aurais été dans un sentiment que si je parle, si on voit ce que je suis, je vais être,
voilà. Démantelé.
Alors, je vais essayer de vous parler plus précisément du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau va toujours réagir par des notions de survie. C'est-à-dire que, si dans mon passé, j'avais eu un parent qui avait été dénoncé par la Gestapo comme étant juif, c'est que au niveau de mes mémoires, j'aurais eu le message que être reconnu juif génère la mort de la personne. Donc, c'est cet exemple pour vous dire ce que, au niveau de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est ce qui se transmet de génération en génération dans les comportements. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que quelque chose que je n'aurais pas vu, la délation en tant que guerre, aura été transmis par mes parents comme un message que si on reconnaît qui je suis, je risque la mort.
Et donc votre travail, c'est de réussir à réactiver d'autres endroits qui viennent peut-être générer de la sérénité ?
Alors, le travail, c'est effectivement de faire déjà prendre à la personne conscience qu'elle porte des messages qui ne lui appartiennent pas et que finalement, eh ben, elle n'est plus en temps de guerre, qu'il n'y a aucun danger de se montrer telle qu'elle est et puis qu'elle peut l'apprendre en posant des actes dans son quotidien et retrouver le plaisir, voilà, de parler comme je vous parle aujourd'hui.
Axel Snackers, tout va bien, alors it's all right dans le temps d'un été. Chamber Soul, le groupe zurichois, est à retrouver en concert gratuit le 6 août sur la scène Ella Fitzgerald du Parc Lagrange à Genève dans le cadre du festival Musique en été. Axel Snackers est l'invité justement de ce temps d'un été. Le temps d'une photographie, oui, mais pas tout de suite. Parce que j'ai envie de revenir, Axel Snackers, sur ce lien que vous faites, à mon avis, de manière très intense, entre votre travail artistique et votre travail thérapeutique. Parce que sur votre site internet, dont on a mis l'adresse sur notre page internet, site terminé, je le dis quand même expressément pour cette émission, vous présentez votre art et votre travail de thérapeute. Il n'y a pas du tout de cloisonnement, mais tout est clair quand même.
Bah, ça a mis 25 ans pour s'éclaircir, je dois dire. Et je me suis pas sentie très très bien d'assumer ça justement de manière ouverte et de manière détendue finalement, parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, ce qui est fantastique dans la période qu'on vit actuellement, c'est qu'il y a un décloisonnement. Il y a un décloisonnement.
On peut être plusieurs choses.
On peut être plusieurs choses. On peut être musicien, vidéaste, peintre, performeur, faire de la radio. Il y a plus de limites. Et puis j'étais toujours dans mon truc à me limiter, voilà. Mais t'es artiste, t'es peintre, t'es thérapeute, en fait, qui t'es, quoi, finalement. Et puis tout d'un coup, ça s'est installé, ça a pris forme. Et je pense que la manière dont je travaille avec mes patients est totalement artistique.
C'est-à-dire que... Vous faisiez des dessins pendant que...
Oui, non.
C'est des couleurs.
Non, c'est pas ça. C'est pas au niveau formel que c'est artistique. C'est au niveau de la performance. Hein. C'est-à-dire que j'ai une connaissance et je découvre la personne qui est en face de moi. Et c'est la rencontre, en fait, entre elle et moi qui va être... créative de quelque chose de nouveau pour moi comme pour elle. Et c'est de l'improvisation totale. Et je me laisse surprendre autant qu'elle. C'est un échange. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais pas figée dans mon rapport à la thérapie. Je suis peut-être plus figée au niveau artistique, en tout cas, qu'au niveau thérapeutique. Peut-être que je dois encore décloisonner et pouvoir être beaucoup plus libre au niveau artistique. C'est ça un petit peu.
C'est bien d'avoir encore des enjeux, des ambitions. Toujours, vous avez encore le temps, l'avenir devant vous. Vous avez apporté une photographie à Axel Snackers. Vous l'avez sur votre portable, votre téléphone intelligent. Il s'agit d'un monsieur à la chevelure plutôt blanche, un visage assez large, des sourcils foncés. Il est, à mon avis, habillé en costume trois pièces. Et il s'agit d'une peinture. Qui est ce monsieur ?
Alors, ce monsieur, c'est un très très bel homme, en fait il s'agit de mon grand-père maternel, monsieur Georges Hermans. Et là, c'est une peinture de lui qu'on trouve dans un château que lui-même a restauré à l'époque où il était encore vivant. Il est mort en 77.
On est en Belgique, là, ou on est en Suisse?
Alors, on est dans la Belgique, habitant le sud de la France. On est à Fayence, près de Grasse, près de Saint-Raphaël, au bord de la mer, dans l'arrière-pays, dans le Var. Donc, mon grand-père était avocat à Bruxelles. Il était vraiment un entrepreneur, quelqu'un de courageux, quelqu'un de rigoureux. Et je dirais que dans mon histoire généalogique, c'est mon pilier. C'est vraiment la personne avec qui j'ai passé du temps. Donc il est décédé, j'avais 12 ans. Donc je me suis construite avec cette figure d'un grand-père battant, un grand-père qui essayait de nous apprendre le flamand, un grand-père qui nous faisait écrire nos vacances, un grand-père qui nous emmenait au cheval, qui nous faisait faire du vélo dans les dunes au bord de la mer du Nord, qui nous faisait déguster les petites crevettes et les gaufres, qui nous emmenait à la piscine. J'ai pas eu tellement l'occasion avec mes parents étaient divorcés et étaient chacun dans leur monde, on va dire. Et j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps à passer avec eux. Donc lui, c'est la personne adulte référente qui m'a fait aimer la vie, le monde.
Est-ce que c'est lui qui vous a lu, par exemple, les nouvelles du cas de Buzzati, que vous adorez ?
Ah non. Les nouvelles du cas, je ne sais pas comment elles sont arrivées à mon chevet, Dino Buzzati. Mais c'est un livre que j'ai lu et relu, effectivement. C'est un livre où l'imaginaire, l'écriture, le mystère m'a accompagnée en tant qu'enfant, ouais.
Je vous propose qu'on fasse une pause musicale. On va retrouver l'eau avec De Palma. Ça s'appelle Au bord de l'eau. On vous retrouve tout de suite après.
Jour à peine éclos, alors qu'il fait déjà chaud, je suis parti ne pas affronter la ville. Je ferai le tour de l'île, c'est mieux ainsi. Au vent de l'eau, il y a cette vie qui m'appelle. Elle me trouve beau. Au vent de l'eau, je passe des heures avec elle, sans dire un mot. On ne me remarque plus. Coin de la rue, un être à part. On s'amuse, on me plaint, rien de tout ça ne m'atteint. Oh non, car quelque part, Je passe des heures avec elle sans dire un mot. J'ai passé tellement de temps à faire mon intéressant qu'un soir je me suis perdu. Voilà ce que je vais faire, aller au bout de la terre, l'océan à perte de vue. Et au bord de l'eau, il y a cette fille qui m'appelle.
Au bord de l'eau, façon Gérard de Palmas, en concert le 8 août au Chapiteau de Zinal et le 12 septembre au Pop Rock Festival à Gilles dans le canton de Vaud. Axel Snackers, on parlait tout à l'heure de votre grand-père qui a été une sorte de tuteur de résilience, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler en termes techniques.
Absolument.
Qu'est-ce que vous transmettez, par exemple, à votre fille? Quelles sont les valeurs, quels sont les bâtons que vous lui donnez pour qu'elle aille dans la vie?
Ah, c'est une bonne question. Je pense que déjà, ce que je lui transmets, c'est la manière dont je vis, d'être toujours émerveillée, ce qui l'énerve profondément.
Voilà. Elle a quel âge ?
14 ans.
C'est normal.
C'est normal. Ouais. Et puis, j'essaye de faire en sorte qu'elle puisse découvrir son originalité, qu'elle puisse vraiment faire ses choix en fonction de ce qu'elle aime. J'essaye aussi d'accepter qu'elle soit totalement différente de moi, qu'elle ait pas du tout les mêmes envies, pas du tout les mêmes intérêts. Je pense que c'est difficile, surtout, voilà, j'ai un enfant, j'en ai pas trois, d'accepter que cet enfant ne soit pas le même ou ne prolonge pas ma propre histoire. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de m'effacer, de lui faire sentir qu'elle a un potentiel énorme et qu'elle est là pour me dépasser.
Axel Snackers, vous l'artiste, la généalogiste, je vais y arriver. Est-ce que vous croyez qu'on n'a qu'une vie? C'est la fin de l'émission, vous avez très peu de temps pour répondre à cette question.
Non, je ne crois pas qu'on n'a qu'une vie. Je pense qu'on en a plusieurs.
Et si c'était à refaire, vous referiez celle-ci?
Non, je préfère passer à une autre. Et en tout cas, je me réjouis de continuer celle que j'ai maintenant différemment parce que j'ai l'impression que je vais mieux et que tout s'ouvre devant moi.
Qu'est-ce qu'il y a dans votre atelier en ce moment ?
Beaucoup de désordre et de la poussière parce que j'ai besoin de vacances.
Mais une envie peut-être ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a tous les aluminiums qui sont là, qui sont commandés, qui n'attendent
que... Ces grands cercles.
Alors, les fameux cercles sont là, les rectangles, les carrés. Et puis, il y a eu un grand moment de jachère depuis une année, où j'ai plus écrit, écouté, regardé. Je pense que ce qui va venir maintenant, c'est vraiment tout nouveau et ça m'échappe complètement.
Une question pour terminer, Axel Snackers. Je me faisais la réflexion, faire de la peinture, de la gravure. Vous avez commencé il y a une trentaine d'années. On est dans une époque, à cette époque-là, où il y a de l'installation, il y a du concept, il y a de l'art vidéo. Beaucoup moins de peinture, beaucoup moins de gravure. Est-ce que ça a été pour vous une manière d'être, je sais pas, de résister finalement aux sirènes du contemporain?
J'ai jamais eu besoin de résister. Pour moi, la peinture a toujours été une évidence et dans d'autres pays, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, la peinture n'a jamais
cessé d'être
et c'est des très petits biotopes où on peint moins, où on pense plus.
Si vous pouviez emporter avec vous une œuvre d'art que vous voleriez dans un musée, ce serait laquelle? Une peinture.
Alors, c'est un portrait qui est dans le musée de Palerme, d'Andrea Voilà, ma mémoire va me jouer des tours.
Damascine.
Absolument.
Antonello Damascine.
Antonello, exactement. Oui. C'est, vous l'avez très bien dit. C'est le portrait d'une petite, d'une jeune fille. Je pense que c'est la Vierge. Voilà, que j'ai découvert au détour d'une balade en Sicile. C'est une peinture magnifique, simple, très lumineuse, et c'est le portrait d'une femme. Donc je pense que je partirai avec elle.
Eh bien, merci. Merci infiniment pour ce dernier paysage que vous nous offrez. Paysage palermitain et pictural. Merci à Axel Snackers d'avoir passé cette heure avec nous. Belle suite d'été lumineux, artistique et aquatique comme il se doit. Je remercie Jean-Baptiste Roumains pour la programmation musicale ad hoc, Max Bott pour la mise en onde, Monique Cortési pour l'assistanat de production. À demain en compagnie de Marc Delbracine. Après les informations de 15h, vous retrouvez les volutes bleutées de Jack Rose. La première est